Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Albert-Ganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Sur le site de Sciences publiques sur franceculture.com, vous pouvez participer à cette émission en nous adressant vos réflexions et vos témoignages sur notre débat d'aujourd'hui. Faut-il encore croire à l'homéopathie ? En réalité, vous avez déjà largement commencé à participer à cette émission, comme en témoignent vos nombreux messages publiés sur notre site. Contrairement à mon habitude, je ne vais pas attendre la dernière partie de notre débat pour prendre en compte vos propos. En effet, certains d'entre vous contestent le titre même de cette émission en critiquant chacun des mots qui le composent, à l'exception du dernier. En écrivant cette question, faut-il encore croire à l'homéopathie ? J'avais pourtant le sentiment d'une provocation modérée. L'un d'entre vous me demande ce que je penserais d'une émission intitulée « Faut-il encore croire au journalisme ?» Je lui réponds que ce serait en effet une excellente émission qui mérite tout à fait que l'on en débatte. Toutefois, les mêmes mots appliqués à l'homéopathie prennent un sens assez différent. Faut-il renvoie à l'un des aspects les plus controversés de l'homéopathie, je veux parler de son remboursement par la Sécurité sociale, encore rappelle que cette pratique n'est pas nouvelle puisque son fondateur, le médecin allemand Samuel Hahnemann, est mort en 1843, et croire, le mot qui blesse sans doute le plus les adeptes de l'homéopathie, est pourtant peut-être celui qui justifie le mieux l'usage de cette médecine, nous allons en parler. Il ne s'agit donc pas avec ce titre de rechercher une improbable objectivité, mais bien de lancer le débat et de tenter de clarifier ce que l'on peut penser aujourd'hui d'une pratique médicale aussi solidement implantée en France qu'elle est violemment critiquée. Sur quels principes repose l'homéopathie et quels sont ses résultats médicaux ? Comprend-on son fonctionnement ? S'agit-il d'un placebo particulier ? Pourquoi échappe-t-elle à l'évaluation ? Quelle est l'importance de la relation entre le médecin homéopathe et le patient ? Nous abordons ces questions à l'occasion de la publication d'un livre intitulé « Pour ou contre l'homéopathie » et qui est constitué d'entretiens avec deux médecins, Élie Arié et Jacques Boulet. Cet ouvrage, publié par les éditions Mordicus, paraîtra le 11 mai. Nous avons bien entendu invité les deux auteurs à participer à Sciences publiques, mais l'un d'eux, Jacques Boulet, médecin généraliste homéopathe à Paris depuis 30 ans, a décliné cette invitation. Nous remercions donc Alain Saint-Rambaud d'avoir accepté de le remplacer. Alain Saint-Rambaud est médecin homéopathe, administrateur du Syndicat national des médecins homéopathes français, vice-président de la Société française d'homéopathie et auteur, entre autres, de l'homéopathie paru dans la collection Que sais-je des PUF en 1999 et de 140 ordonnances en homéopathie publiées par Masson en 2008. Et Alain Saint-Rambaud est également directeur de la rédaction de la revue d'homéopathie. Nous recevons également l'un des auteurs de Pour ou contre l'homéopathie. Élie Arié est cardiologue après avoir exercé pendant plus de 30 ans. Il est aujourd'hui chargé de cours à d'économie et de gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Il est également l'auteur de plusieurs livres. Il est le co-auteur de l'ouvrage intitulé « Tempête sur l'homéopathie » paru en 2006 chez les Asépiades. N'hésitez pas à continuer à nous communiquer vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences publiques sur franceculture.com. Alors Alain Saint-Rambaud, bonjour.
Bonjour. Bonjour et merci à France Culture de m'inviter. Je remplace le docteur Jacques Boulet qui n'a pas pu se rendre à votre invitation.
Oui, qui n'a pas désiré participer à ce débat.
Et je tiens à dire que je serai l'interprète des nombreux patients qui font confiance aux médecins homéopathes et aux nombreux médecins homéopathes qui investissent toute leur existence sur cette pratique tout à fait particulière.
Nous n'en doutons pas. Je veux d'ailleurs commencer par une question la plus objective possible, en vous demandant de définir l'homéopathie en quelques mots. Alain Saint-Rambaud.
Alors, la définition est à la fois simple et compliquée. On a eu la chance d'être invité par le président Glorion à faire une commission ordinale sur l'homéopathie. Et avec cette commission présidée par le docteur Lebatard-Sartre et le Syndicat national des médecins homéopathes français, nous avons abouti à une définition qui est dans la commission, qui est dans le rapport de commission, et qui dit que l'homéopathie est une méthode qui permet d'associer trois choses. La similitude, le principe de similitude, c'est-à-dire le fait de faire, de montrer à une chose qui peut rendre un service à une pathologie. L'infinitésimalité, c'est la dose infinitésimalité, c'est-à-dire l'infiniment petit, et la globalité, c'est-à-dire de prendre tout l'ensemble de la personne dans sa modalité réactionnelle.
Très bien, on y voit nettement plus clair. Élie Arié, bonjour.
Bonjour, et je remercie M. Sarambo d'avoir accepté de participer, sinon cette émission n'aurait pas pu avoir lieu.
Tout à fait. Et donc avant d'entrer dans les différents aspects de notre débat, qui est très très riche, hein, je suis malheureusement persuadé que nous n'aborderons pas tous les aspects, mais si vous deviez donner vos principaux griefs contre l'homéopathie, puisque vous êtes plutôt militant anti-homéopathe. Vous exprimez dans ce livre d'une façon très claire sur ce point. Quels sont les principaux griefs que vous exprimeriez?
Oui, il y en a un. Pour moi, vous savez, la médecine, c'est l'art de guérir ou de soulager, ou d'essayer de guérir et de soulager les gens. Et je ne crois pas, donc, ça n'a aucun sens de dire qu'il y a des médecines parallèles, perpendiculaires, obliques, naturelles, antinaturelles, douces, dures ou molles, pour moi. Mais il y a deux démarches, c'est vrai. Il y a la démarche de la médecine normale qui part à partir des faits constatés.
Donc on appelle allopathie.
Non, les homéopathes appellent comme ça. Il y a une seule médecine. On peut partir des faits constatés, essayer de bâtir des théories pour comprendre comment ça marche, qu'on comprend ou pas. Alors, l'aspirine a été découverte à la fin du 19e siècle, mais c'est que dans les années 60 qu'on a compris comment ça marchait. Bon. Et puis, quand des faits nouveaux apparaissent, eh bien, on modifie les théories, parce que les faits restent, les théories changent toujours. Et il y a d'autres médecines, comme l'homéopathie, qui partent d'une théorie élaborée il y a 200 ans, qui reste imperméable à tout ce qui a été découvert en 200 ans en immunologie, en génétique, en physique, en chimie, en pharmacologie, en tout ce qui volait. Et si elle existe dans 800 ans, elle sera la même. Et je crois qu'une théorie qui ne se remet pas en cause elle-même lorsqu'apparaissent des faits qui semblent à contredire, c'est du dogmatisme.
Alors, on entre directement dans le débat, Alain Sarambo, par rapport à ce statisme, d'une certaine façon, de l'homéopathie, c'est peut-être l'image qu'elle donne, est-ce que c'est une réalité?
Non, c'est totalement faux. D'abord, je pense que M. Arié ne connaît pas trop les textes du fondateur Samuel Hahnemann, qui est vraiment un scientifique et qui a observé les faits et la pathologie et qui a expérimenté sur lui-même les médicaments. Donc déjà, d'emblée, c'est un scientifique. En plus, bon, c'est vrai que ça s'est passé au 19e siècle, mais il y a des grands noms du 19e siècle qui restent actuellement au 19e ou 20e siècle. Et on ne peut pas dire que leur méthodologie ou leur principe soit faux. Je prendrai le docteur Freud.
Je ne crois pas que c'est la question. La question, c'est est-ce que ça a évolué depuis?
Alors, je vais vous répondre. Ça a forcément évolué parce que, d'une part, la pratique des médecins homéopathes et l'expérience, la technologie, tout ça nous a fait évoluer. C'est une thérapeutique qui est utilisée dans le monde entier, l'homéopathie. Ça va, alors je suis désolé, monsieur Arié, elle est actuellement acceptée par l'Union européenne, des directives européennes sur l'homéopathie. Elle est utilisée largement au Brésil et aux États-Unis. Elle est utilisée en Inde d'une façon assez massive, comme la médecine ayurvédique et la médecine occidentale. Donc, c'est une médecine et qui elle est reconnue par l'OMS. Donc, ça fait partie des médecines non conventionnelles, j'aime pas trop le terme, mais qui a fait beaucoup de progrès. Et nous avons la chance d'avoir environ 200 savants qui travaillent là-dessus, avec le professeur Cambard, Dangoubumou, Madeleine Bastide, dont je parlerai tout à l'heure. Et je vais tout de suite le dire pour dire que ce n'est pas une médecine dans l'ancien temps. L'homme le plus connu de France, le plus primé, le professeur Montagnier, nous fait le grand plaisir d'être présent au Congrès national des médecins homéopathes à Strasbourg, au sein du Parlement européen, pour reprendre les travaux de Jacques Benveniste. Donc un grand savant, reconnu de façon mondiale, reprend ses travaux.
Combien de médecins homéopathes en France aujourd'hui?
Merci. Combien de médecins homéopathes? Je dirais qu'il y a 3500 médecins homéopathes qui font à 80 ou 90% de l'homéopathie. Mais l'homéopathie est une thérapeutique. Elle n'exclut pas le reste des thérapeutiques. Un médecin qui fait de la médecine générale ou spécialisée, qu'il soit médecin généraliste ou pédiatre, il va aussi se servir de toutes les thérapeutiques qui puissent exister.
Donc il y a beaucoup de médecins qui pratiquent l'homéopathie être étiquetés homéopathes, principalement homéopathes.
Ils font principalement de l'homéopathie, ils ont étudié l'homéopathie, ils ont été diplômés, mais ils ne font pas que de l'homéopathie. Je le dois le dire, puisque j'ai fait partie de la commission Le Batard-Sarp, je suis au Conseil de l'Ordre des médecins du Val-de-Marne et mon patron, le président, est un cardiologue et il est tout à fait ouvert à toutes les pratiques à partir du moment où elles respectent la personne humaine.
Hilarié.
Oui,
sur bon, cet aspect de formation aussi des médecins homéopathes.
Alors, disons un mot sur la formation, oui. D'abord, il faut savoir qu'en France, la formation est facultative. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi une formation pour déclarer homéopathe. Ensuite, l'Ordre des médecins a pris position là-dessus en 1974 en disant que l'homéopathie n'était pas évaluée, mais qu'il fallait enseigner dans les règles. Bon, on ne sait pas ce qu'on enseigne, mais il faut le faire dans les règles. Enfin, ça n'a rien changé. N'importe qui peut écrire à l'Ordre des médecins à partir du « je suis homéopathe ». Il sera inscrit, non pas comme homéopathe d'ailleurs, mais comme médecin exercice particulier. Bon, c'est l'appellation officielle.
Il y a quand même un enseignement de l'homéopathie à la faculté de médecine.
Il y a deux enseignements. Il y a des enseignements par la faculté, il y a des enseignements par des associations d'homéopathes qui louent des locaux à la faculté pour dire enseignement à la faculté. C'est-à-dire que nous aurions pu, si vous n'avez pas de studio, nous aurions pu louer un local à la faculté de médecine, et on peut dire que c'est un débat qui a lieu à la...
Bon, d'accord, ça, il y a quand même un enseignement officiel.
Alors cet enseignement, c'est officiel, il faut le dire, c'est un enseignement théorique. Les plus longs seront de 200 heures, mais c'est réparti en 3 ans. Pardon. C'est-à-dire c'est quelques week-ends par an,
vous dites 300
réparti
heures
en 3 ans,
dans le
livre, de façon à dire j'ai fait 3 ans d'homéopathie. Sauf que les autres enseignements, les autres spécialités, c'est 4 ans en fonction d'interne, une soixantaine d'heures par semaine par an, bon, moins les congés payés, c'est au moins 1200, 1500 heures, contre 200, 300, purement théorique. En plus, c'est un enseignement sympathique, parce que tout le monde est reçu, c'est plus gentil. Du moment qu'on paye les droits d'inscription, on devient homéopathe. Mais enfin, je précise à ceux qui veulent être homéopathes, qui n'ont pas besoin de ça. Ils peuvent simplement écrire homéopathe, et c'est suffisant. Cet enseignement n'est pas obligatoire, c'est un peu surprenant. Mais, enfin, moi, ça ne m'étonne pas trop, disons.
Alain Sarambeau, sur cet aspect-là.
Je me porte totalement faux, vient de ce que dit M. Harrier. Bon, il y a un enseignement traditionnellement par des écoles privées, ce qu'on appelait l'école française d'homéopathie, qui regroupe trois associations, et qui se fait, entre autres, à l'hôpital Saint-Jacques, qui est traditionnellement un des hôpitaux qui fait de l'homéopathie, qui donne des consultations comme le dispensaire Hahnemann, et qui le donne à des prix tout à fait, des prix conventionnels ou à des CMU.
Est-ce qu'il y a un diplôme ?
Alors, il y a un diplôme de l'école française, il y a un diplôme universitaire, comme à Marseille, et je vous ai amené chaque diplôme universitaire, vous le savez, est parrainé par un professeur de thérapeutique. Donc, les enseignements d'homéopathie sont parrainés par la faculté. Il faut savoir que la conférence des doyens a voulu que l'homéopathie, comme l'acupuncture ou l'ostéopathie, soit enseignée aux médecins. Et je veux répondre à M. Harrier sur une chose très importante. L'homéopathie, comme d'autres thérapeutiques, doit être médicalisée. Si jamais des gens voudrait supprimer l'homéopathie, voudrait la démédicaliser, il se passerait ce qui se passe dans certains pays.
Qu'est-ce que vous appelez médicaliser, Jean-Bernard ?
Démédicaliser, c'est-à-dire faire que ce soit des non-médecins qui le fassent.
D'accord.
Donc, à partir de ce moment-là, il y aurait des dérives très graves. Les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu, tous les ministres de la Santé, quelle que soit leur opinion, ont été favorables à ce que ce soit des médecins qui fassent de l'homéopathie. Alors ensuite, sur le principe de l'enseignement, est-ce qu'il doit être uniquement théorique ? On souhaite qu'il soit théorique, mais aussi qu'il soit pratique. C'est pour ça que dans les dispensaires...
L'est-il ou ne l'est-il pas ?
Alors, il l'est plus ou moins, c'est très difficile. Ceci dit, on n'est pas les seuls à avoir ce même problème, parce qu'en médecine générale, trouver des maîtres de stage et des stages en médecine générale, ce n'est pas facile. Ce problème est général à toute la profession. Mais pour nous, il est peut-être plus essentiel, parce que nous avons demandé à ce que nous soyons insérés au niveau hospitalier universitaire. Et c'est pas facile de trouver un patron qui ait l'ouverture. Alors, c'est le cas, par exemple, à Lyon. J'en ai pour 2 minutes. À Lyon, le professeur Trépeau a ouvert une consultation d'homéopathie pour des patients qui avaient des pathologies graves. À Strasbourg, nous avons le confrère M. Bagot qui travaille aussi sur des malades.
Enfin, faire le tour de France, malheureusement, on n'a pas le temps. Je voudrais quand même que vous revenir une seconde sur l'évolution de cette... Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de savoir qu'est-ce qui a changé en matière d'homéopathie au cours de ces 200 dernières années. Le fait que de grands noms s'y intéressent aujourd'hui n'est pas un facteur d'évolution, pas forcément. Qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, nous avons nos souches, c'est toujours les mêmes, mais on en a développé d'autres. On a quand même réussi à avoir 1163 médicaments vignettés. Ça, c'est un acquis social qui permet aux gens d'être remboursés. Ce sont tous nos assurés sociaux qui ont le droit aux médicaments homéopathiques et à la consultation. C'est quand même une chose extraordinaire en France. Et ça, on veut le garder. La deuxième chose qui a changé, c'est que les grands savants se sont intéressés à notre thérapeutique. La fabrication la fabrication des médicaments a beaucoup changé. Vous prenez tous les laboratoires homéopathiques de France et de Navarre ou d'ailleurs, ils ont 15 contrôles de qualité. Donc le produit qu'on donne est beaucoup mieux élaboré. De la souche, je prends l'arnica. Tout le monde connaît l'arnica. Je pense que beaucoup d'auditeurs savent ce que c'est. Vous prenez ce granule, vous avez une bosse. En quelques minutes, la bosse disparaît, en tout cas la sensation de la bosse. En 5CH. Voilà une chose que vous pouvez prendre.
Alors 5CH, on reviendra. C'est un mode de dilution, un niveau de dilution. On reviendra là-dessus. Eliarié, l'un des points, en dehors de l'évolution que vous contestez, il y a cette qualité de médicament qu'ont les fameuses pilules homéopathiques.
Oui, tout à fait. D'abord, tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, si homéopathie, il doit y avoir, mais je ne crois pas que ce soit indispensable, il faut que ce soit fait par des médecins pour être sûr qu'on ne soigne pas par l'homéopathie quelque chose qui devrait être soigné autrement. Sur ce point, on sera tout à fait d'accord. On arrive au problème du médicament. Et là, il faut être quand même très clair. Un médicament démontré depuis 1974, ce n'est pas si vieux que ça, démontrer qu'un produit est un médicament, c'est-à-dire qu'il a une action propre, c'est démontrer qu'il a un effet supplémentaire à l'effet placebo qui est associé à tout médicament. Voilà.
Donc c'est là qu'on fait des essais en double aveugle,
entre un placebo, parce que tout médicament, même les médicaments les plus puissants, ont toujours un effet placebo qui leur est associé.
Donc on veut essayer d'isoler l'effet placebo pour mesurer l'effet réel.
Ça veut dire que si on donnait autre chose à la part de ce médicament, ça ne marcherait pas. Si vous avez une tuberculose, qu'on donne de la pénicilline, ça ne marchera pas. Bon, tandis que si on remplace un placebo par un autre placebo, si on remplace l'homéopathie par un autre placebo, ça marchera aussi bien. Il faut savoir que l'homéopathie bénéficie d'un passe-droit juridique. C'est-à-dire que l'homéopathie n'est pas obligée, et non, elle n'est pas tenue, d'apporter les preuves de son efficacité contre un placebo. Elle doit simplement apporter la preuve de son usage traditionnel. C'est-à-dire que ce qui définit un médicament homéopathique, ce n'est pas sa composition, ce ne sont pas ses effets, c'est la preuve qu'on l'utilise depuis longtemps. Et ce passe-droit, peu de gens l'ignorent. Alors là, je crois que les homéopathes doivent faire un choix, là, vraiment faire un choix. Je n'entends pas les syndicats des homéopathes exiger la suppression de ce passe-droit. On ne peut pas dire à la fois, j'ai des études qui prouvent que ce n'est pas un placebo, et dire, mais je garde quand même le passe-droit. Parce que là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une réputation.
Je crois qu'on a compris.
On ne peut pas jouer à pile, je gagne, face super. Hein.
Alain Sarambeau, sur ce point de l'évaluation qui est centrale quand même.
Alors, mais monsieur Harrier, nous ne sommes pas des charlatans.
Je dis de réputation.
La réputation, laissez-moi finir. Cet acquis social et pharmaceutique qui a permis aux médicaments homéopathiques d'être conservés en France, ce n'est pas un passe-droit. C'est un acquis. Sinon, on aurait fait disparaître tout. Et la phytothérapie a déjà disparu après-guerre.
Pour quelle raison l'homéopathie aurait-elle disparu
Elle a des effets bénéfiques, mais nous n'avons pas les indications. C'est-à-dire que devant, par exemple, Nux Vomica ou Arnica, on ne met pas comme Tahor, anti-cholestérol. On n'a pas ce genre d'indication. En revanche, je vous le dis puisque je l'ai vécu, les gens qui nous gouvernent et les agences de contrôle des médicaments, ce ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens très intelligents et très, très, très... Et ils poussent au maximum pour savoir si la tradition et l'expérience est positive. Et quand il y a un produit qui pose problème, il est supprimé. Nous avons eu des souches qui ont été supprimées. Nous avons eu des dilutions qui ont été supprimées. Nous avons en France l'Agence française sanitaire des produits de santé, l'AFSAP, donc ils sont très très méticuleux, croyez-moi, la France là-dessus. Et la Commission européenne aussi a permis ce genre de choses, mais tout avec un contrôle. Nos médicaments sont très sérieux et les supprimer. Alors l'évaluation, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Nous n'avons pas les effets secondaires indésirables.
Non, mais là, on ne parle pas des effets secondaires indésirables, on parle des effets positifs.
Mais les effets positifs, ils sont prouvés, puisque nous avons un certain nombre... Alors là, je vais vous donner la chose clinique. Monsieur Harrier n'a cité dans ses livres aucune des expériences qui ont été données. Nous n'avons pas lu le premier. Mais les méta-analyses, monsieur Harrier, c'est important. Les méta-analyses qui sont payées par la communauté européenne. Nous avons des gens qui ont fait des travaux. Monsieur Lind, monsieur Klenjnan. Mais vous les savez et vous ne voulez pas le reconnaître.
Si.
Monsieur Sarambo, comment expliquer à ce moment-là que vous ayez cette espèce de dispense de faire la preuve de l'efficacité thérapeutique
de... Pas de l'efficacité. Des effets indésirables.
Ah non, je ne parle pas de la même chose. Je parle de la preuve que il ne s'agit pas d'un simplement d'un placebo. C'est quelque chose de très précis.
Oui, j'ai compris.
Et je ne parle pas des effets indésirables, qui est un autre problème.
Vous connaissez qu'il n'y a pas d'effet indésirable à l'homéopathie.
Enfin, il y a l'effet nocebo, comme pour tout placebo.
Alors, il y a un effet indésirable ou il n'y a pas d'effet indésirable?
Il peut y avoir des effets nocebo, comme pour tout placebo.
Nous avons des...
C'est le contraire, le symétrique. Mais il faudrait peut-être expliquer ce qu'est l'effet placebo, j'espère qu'on me laissera deux secondes de dire, voilà. Parce qu'on en parle beaucoup.
On va y revenir ce que c'est. Tout de suite dans quelques instants. Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Faut-il encore croire à l'homéopathie ?» avec Alain Sarambo, médecin homéopathe, administrateur du syndicat national des médecins homéopathes français et vice-président de la Société française d'homéopathie, et Élie Arié, cardiologue chargé de cours d'économie et gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, et co-auteur avec Jacques Boulet du livre intitulé « Pour ou contre l'homéopathie » qui doit paraître le 11 mai aux éditions Mordicus. Nous en sommes naturellement arrivés à une question centrale qui est cet effet placebo. Et on voit bien que déjà vous n'étiez pas vraiment d'accord sur cette question de l'évaluation, puisque dans un cas, vous, Eliarie, vous parlez d'évaluation d'effets actifs, d'une certaine façon, de ces médicaments, alors que Alain Sarambo, vous parlez plutôt des effets qui ne sont pas dangereux. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, des effets secondaires,
mais vraiment
indésirables. Oui, allez-y.
Moi, je crois que pour être clair pour les auditeurs, il faut dire que la pharmacologie de l'homéopathie et la pharmacologie des médicaments plus pondérables n'est pas la même. Et ça, c'est très important. Nous avons travaillé avec Madeleine Bassit, qui est immunologue, et je vais vous donner les caractéristiques de la pharmacologie classique moléculaire. Il faut une action moléculaire avec interaction molécule-récepteur. Il faut un effet dose. Il faut un effet lié à la durée de la présence de la molécule active. Il faut une concentration tissulaire. Il faut une présence d'effets secondaires ou indésirables. Il faut des effets indépendants de l'état du sujet. Et il faut une étude toxicologique obligatoire. Et le dernier point, c'est des résultats reproductibles. Pour nous, les homéopathes, notre caractéristique de la pharmacologie, je vous le donne en quelques points, c'est l'utilisation de solutions très diluées et très dynamisées qui peuvent ne renfermer aucune molécule. L'effet dilution dépendant observé dans certains modèles expérimentaux, plus le produit est dilué, plus l'effet sera puissant pour certains. L'effet mémoire, qui est observé par les praticiens, est différent d'un praticien à un autre. L'effet dépendant de l'état du sujet, par définition de la loi de similitude. Et en fait, et en dernier point, le phénomène d'aggravation temporaire. Par exemple, on peut donner un médicament, et il peut y avoir une aggravation. Par exemple, pour un eczéma, un enfant qui a un eczéma, on donne un traitement et ça aggrave. Nous allons dans le sens de la similitude. Le principe angulaire de l'homéopathie, c'est la similitude.
Bon, pour le dire plus clairement, parce que similitude n'est pas forcément très compréhensible, on dit souvent qu'il s'agit de soigner le mal par le mal. Est-ce que vous acceptez cette
périphrase ? Oui, c'est une façon simple de résumer le problème.
Donc on prend quelque chose qui provoque quelque chose de néfaste, mais on le dose de façon si... faible, et on va revenir sur cette qualité de dosage, pour qu'il provoque quelque chose de positif,
une réaction positive
du corps humain.
Qui se substitue, c'est-à-dire qu'on donne un produit qui créerait chez un sujet sain une pathologie, la sensation de bosse, et si on le donne à quelqu'un qui a des bosses, on se substitue à cette sensation douloureuse.
Très bien, donc c'est une forme qui rappelle un petit peu la vaccination, mais
sans
qui
être la vaccination.
De façon assez différente.
C'est une loi hippocratique. Et je pense que M. Arié, Hippocrate s'est appuyé sur trois lois.
Ce n'est pas très récent quand même, Hippocrate.
Oui, mais c'est toujours d'actualité, c'est là-dessus qu'on fait notre serment. La première chose, c'est la loi de la nature. Vous avez raison, quelquefois il y a des choses qui se guérissent naturellement. La deuxième chose, c'est le fait de donner un antalgique, la fièvre contre la fièvre, l'aspirine que vous citiez tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est les semblables sont soignés par les semblables. Je dirais que la quatrième chose, c'est la médecine moderne, c'est l'effet de substitution, à savoir on donne de l'insuline à quelqu'un qui n'a plus de pancréas. Bon, et puis il y a d'autres thérapeutiques qui sont arrivées. Là, on pourrait compléter là-dessus. Mais M. Arié connaît tout ça.
Oui, je connais ça et je voudrais revenir à ces arguments qui, à mon avis, n'en sont pas. C'est inonder les lecteurs de choses, des lecteurs qui n'ont pas lu. Je voudrais revenir à des choses simples, claires. On parle beaucoup de l'effet placebo, ce n'est pas ce que les gens croient. et je voudrais expliquer ce qu'est l'effet placebo. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est une suggestion donc qui marche, les esprits un peu idiots, naïfs ou un peu hystériques, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est ce constat qu'on a fait, que quand on donne à des gens un produit n'importe lequel, mettons une boule de mie de pain entourée de sucre, un certain nombre d'entre eux ira mieux, pas se sentira mieux, ira mieux, il y aura peut-être la fièvre qui baisse, etc. Et on n'en sait pas plus. Ça n'a rien à voir avec la suggestion, parce que ça marche sur les animaux domestiques, ça marche pas sur les animaux sauvages, ça marche sur les nouveau-nés, ça n'a rien à voir avec les niveaux de connaissance médicale. Je dis que c'est moi, l'aspirine a un effet placebo que je connais qui marche. Ça n'a rien à voir même avec le fait d'y croire. Il y a des gens qui disent « je n'y crois pas à ton truc ».
Et comment après, ça fonctionne alors ? C'est très
mystérieux. On ne le sait pas. Et quand on ne sait pas quelque chose, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il ne faut pas être comme les homéopathes qui ont réponse à tout.
Effectivement, on a un auditeur qui nous explique
oui.
que...
Quand on ne sait pas, on dit « on ne sait pas ». Il y a des choses très
crues. Les traitements homéopathiques ont un effet sur sa batterie de poules. Et qui effectivement,
oui,
donc
oui
là,
tout à fait. Chez les animaux, ça marche. Ça ne marche
pas
chez les animaux
intellectuels.
Si monsieur avait un tic, mais s'il avait un tic, ça deviendrait un animal domestique, c'est compliqué. Ça ne marcherait pas. Mais
donc ça marche sur les enfants également.
Ça marche sur les nouveau-nés, pas sur les enfants.
C'est sur les nouveau-nés et sur les animaux, donc domestiques.
Domestiques, voilà. Bon, on peut mettre des théories, mais nous, contrairement aux homéopathes, on distingue les théories des faits. Voilà pourquoi tout médicament, quel qu'il soit, a toujours un effet placebo associé. Ce qu'il faut prouver, c'est que il a un effet lié à sa composition, indépendant de l'effet placebo qui lui est associé, donc supérieur. Et ça, il n'y a aucun... les homéopathes en sont dispensés. Et je répète ce que je dis, s'ils ont des études qui prouvent qu'ils ont un effet supérieur à l'effet placebo, qu'ils demandent à la suspension de cette dispense, ce passe-droit sera la meilleure des preuves. Et s'ils demandent que ce passe-droit soit moins tenu, au contraire, je pourrais dire une chose que m'a dit Christian Boiron, le laboratoire Boiron. J'ai fait un tribunal dans l'humanité sur l'homéopathie et M. Christian Boiron m'a répondu. Bon, moi, j'ai réussi à lui faire écrire dans l'humanité, ça peut lui arriver souvent. Et il m'a dit, le jour où cessera cette suspicion sur l'homéopathie, je cite de mémoire, hein, nous ferons les études sérieuses pour signer, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Bon, d'abord, il y aura une ivraie. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette démarche qui consiste à dire, on commence par appliquer, par donner, par rembourser. Et ensuite, quand plus personne ne discute, on essaye de voir si c'est sérieux ou pas.
Alain Sarambeau.
Bon, je voulais répondre sur l'effet placebo.
Absolument.
Cher ami, je vous adresse Madame Machin, qui a des infections urinaires à répétition, surtout depuis des ans, et d'autre part, elle a des problèmes d'allergie. Avec un peu d'as, je pense que l'homéopathie lui fera du bien. Cher ami, je vous adresse Madame Machin.
Vous n'avez pas venu lire tout votre courrier.
Oui. Donc, je vous ai amené une cinquantaine de lettres d'enfants envoyées par des médecins généralistes. Ce ne sont pas des idiots, mes confrères et mes consoeurs. Pour soigner des enfants qui traînent depuis 2 ou 3 ans et qui ont été soignés raisonnablement et rapidement. Je vous ai amené un autre livre. Là aussi, c'est toujours placebo. Fait par Jacqueline Peck. Attendez, laissez-moi finir.
Vous ne pouvez pas nous faire une liste de
non,
de
l'effet
citations
placebo
de ce type.
Chez les
expliquez-nous.
Animaux, ce n'est pas possible de le prouver que ça existe. Vous avez déjà soigné un cheval? Bon, non.
Il y a plein de vétérinaires, ils disent que l'homéopathie ou n'importe quel autre placebo marche très bien.
30% des vétérinaires, là vous me coupez la parole, 30% des vétérinaires soignent par homéopathie.
Ou autre.
Et je vous le dis, je vous raconte cette histoire-là parce que j'étais invité à Villeneuve-Saint-Georges par des confrères et des consoeurs, et qui étaient aussi sceptiques et même assez négatifs, entre autres des chefs de service. Et il y a une personne qui s'est levée qui a dit « Oui, moi je ne crois pas du tout à l'homéopathie, c'est plein de placebo. » Mais quand j'ai dû soigner ma jument, alors que je l'avais emmenée chez le vétérinaire plusieurs fois, un seul petit produit, ça devait être du sucre, certainement, vendu par un mauvais laboratoire, certainement, mais ça l'a soignée.
Bon,
Donc, pour vous dire l'effet placebo...
La question, est-ce que pensez-vous de la part de l'effet placebo dans l'action du médicament homéopathique ?
Je la récuse pour les enfants, je la récuse pour les animaux. Elle existe pour tous les produits qu'on donne à... Si je vous donne demain, monsieur... un médicament, et si vous avez compris que j'étais un bon médecin, vous aurez encore plus confiance comme moi.
Ça, c'est commun, comme vous le dites, à tous les médicaments.
À tous les médecins, et nous le revendiquons.
Donc, il n'y a pas d'effet particulier en matière d'homéopathie.
Non.
L'effet placebo n'est pas plus important.
Je vous invite à prendre Nux Vomica si vous avez mal au cœur. Je vous invite à prendre Arnica si vous avez des bosses. C'est pour ça que j'ai écrit un traité pour expliquer aux gens ce que sont les médicaments. Ce n'est pas des médicaments mystères. Sinon, on n'aurait pas 1163 souches.
Très bien. Alors, pour comprendre justement le fonctionnement de ces souches Il faut revenir à la fabrication de ces médicaments, à cette technique de dilution, qui est quand même la base absolue de l'homéopathie. Élie Harié, comment expliquer ce qui reste dans ces médicaments, et qui est assez variable, et ce n'est pas toujours transparent, puisque ce sont des expressions du style CH12 ou, que vous avez cité tout à l'heure, où il y a encore une autre technique aussi de dilution, donc ce n'est pas forcément très, très perceptible par le grand public. De quoi s'agit-il de votre point de vue, Élie Harié?
D'abord, je veux dire, je suis déçu quand même de voir M. Sarambo utiliser l'argument « il y a eu un cas, il a pris ça, je me suis senti mieux, donc ça prouve que ça ne veut rien dire ». Vous savez que pendant des
siècles... C'est empirique, la médecine.
Oui, pendant des siècles, les médecins ont soigné les gens par des saignées, ils le faisaient de bonne foi, ils avaient l'impression que ça marchait, les gens étaient contents, ça ne prouve rien. Ça n'a sûrement guéri personne, sauf les hémochromatoses, mais ils ne savaient pas diagnostiquer, il n'y avait pas beaucoup, et ça a dû en tuer beaucoup. Et tout le monde était content, et ça marchait. Bon, je reviens à votre question. Oui, effectivement, à partir des missions 11, je ne veux pas inonder les auditeurs de notions scientifiques qui ne les intéressent pas forcément et qui ne sont pas le fond du sujet. À partir de certaines dilutions, 11 ou 12 CH, il n'y a plus une seule molécule, mais ça ne me dérange pas.
Alors,
nous ne sommes pas des physiciens, et M. Sarambo non plus, nous ne sommes pas des chimistes, nous ne sommes pas des physiciens.
En deux mots, 12 CH, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a une dilution.
C'est un taux de dilution.
Goutte, voilà, il y a 12
donc, à partir de ce niveau-là, il n'y a plus de molécules actives.
Statistiquement, il n'y a plus une seule molécule, mais ça ne me dérange pas. Simplement, je dis que si on prouvait, encore une fois, que ça avait un effet supérieur à l'effet placebo, on se dirait, on ne comprend pas, mais on constate que ça marche.
Très bien.
Mais il ne faut pas se lancer dans la mémoire de l'eau, les radicaux, à chercher des explications scientifiques que personne n'exige de l'homéopathie. On demande simplement de prouver que c'est plus qu'un effet placebo. Et ça brille derrière, ça dispense de le prouver.
Et voilà. Nous en avons déjà parlé, Alain Sarambo, oui. Sur cet aspect de dilution. Il est effectif qu'il est difficile de comprendre comment un médicament peut être actif dans la mesure où il ne contient plus les molécules qui sont censées s'y trouver au départ, puisque la dilution les a fait disparaître. Alors comment expliquer ce processus-là?
Alors, deux choses. M. Harié vient bien de le signifier. Jusqu'à la 11-12 CH, nos produits ont une trace moléculaire.
Tout à fait.
Qui est décélable par chromatographie et que chaque pharmacien peut trouver. Donc, jusqu'à la 12-CH, on peut dire que nous ne pouvons pas être accusés d'être un placebo, d'être rien dedans. Il y a quelque chose. À partir de la 11-12 CH, effectivement, il n'y a pas plus de traces moléculaires. Et c'est là qu'où intervient toute la pharmacopée de l'infinitésimal, et c'est compliqué. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer d'une façon claire et nette.
Excusez-moi, je vous coupe, mais l'infinitésimal, ça n'est pas le rien.
Non, j'ai dit jusqu'à la 12.
Là, vous dites qu'il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien de décélable. Il n'y a plus rien de décélable, pardon, excusez-moi. Donc jusqu'à la 12-CH, il y a la molécule. Après la 12-CH, il n'y a plus de molécule décélable, mais le solvant a été transformé. Est-ce que, et nous allons alors très loin, puisque...
Transformer de quelle façon?
Alors justement, ça, comme l'a dit M. Harié, je ne suis pas... Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, je ne vais pas vous les citer parce que c'est un peu comme les chiffres.
Tout à fait.
Mais il y a eu des études en 90, Hill, Klejnen en 91, en 97 l'Europe et Linde en 97. Il y a eu un certain nombre de méta-analyses.
Qui donnent quel
résultat? Qui donnent un résultat tout à fait mitigé. C'est-à-dire que pour certaines méta-analyses, on a les mêmes résultats que les placebos. Et pour d'autres, on a un résultat supérieur. Mais toute la difficulté, c'est les Anglais, M. Fisher, M. Rey, qui ont expliqué que ce n'était pas facile de faire versus placebo, de faire des études. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, les homéopathes, puisque demander à la communauté des professionnels homéopathiques de faire quelque chose, je terminerai là-dessus, c'est que nous soyons davantage insérés dans le monde médical et universitaire, de telle sorte que nous puissions faire nos travaux. Bon, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas le prouver à l'heure actuelle. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas pu prouver dans le temps. La Terre tourne, et pourtant, on a dit à un moment donné à M. Galilée qu'elle était plate comme une galette.
Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire ces études?
Les moyens.
Non.
Non, je vous le dis sincèrement. Les moyens, là, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Les moyens, parce que je vais vous dire franchement, vous savez que les moyens de la recherche, pour tout, sont limités. Et pour l'homéopathie, c'est encore plus limité. C'est peanuts, l'homéopathie. Les laboratoires, nous avons 3 ou 4 laboratoires en France.
Dont
le numéro 1 mondial, on est content qu'il soit le numéro 1 mondial.
Il s'agit effectivement du laboratoire Boiron que nous avons invité, qui a décliné notre invitation à cette émission.
Mais il y a aussi le laboratoire Léna, il y a aussi le laboratoire Velleda, il y a Seven Pharma, il y a d'autres laboratoires. Le laboratoire Boiron a eu l'historique de réunir un certain nombre de capacités pharmaceutiques dynamiques et de développer l'homéopathie dans le monde entier. il faut leur rendre...
Donc aujourd'hui, 2800 personnes environ employées par le laboratoire Boiron.
J'en sais rien.
Et autour de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ce qui reste de toute façon très très faible.
Par rapport aux milliards de l'industrie pharmaceutique classique.
Absolument.
Des milliards qui sont, j'allais dire, donnés pour les produits pharmaceutiques. Mmh. X ou Y, qui rendent service. Hein,
Éliarié, sur cet aspect, pas les moyens de faire des études.
Oui, non, genre, tout à fait faux, bien sûr. Ben pour il est extrêmement simple. D'abord, il faut qu'il soit possible d'expérimenter contre un placebo. C'est extrêmement simple. C'est une méthodologie très simple. Je vous la donne, vous voyez 100 patients. Ce n'est pas la peine de faire des grandes séries. Quand c'est bien fait, ce n'est pas la peine de faire des grandes, 50, un groupe de 50. Vous voyez 100 patients, vous leur prescrivez chacun, suivant son terrain, etc., un médicament homéopathique particulier. Et la moitié d'entre eux recevront autre chose qui aura la même formule. Et voilà, c'est très facile de faire une expérience en double aveugle, randomisée, tout à fait. Bon, les moyens, ça dépend. Si c'est un produit très cher, c'est une expérimentation qui procède des milliers de gens, il faut des moyens, mais ce n'est pas la peine. On donne de l'homéopathie pour des états pré-grippaux, pour des états d'autres choses. Ça ne demande pas des moyens chers et lourds. Hein.
Alors, Alain Sarambeau, il y a une autre question qui tourne autour de cette pratique de l'homéopathie. Je suis étonné que vous n'en parliez pas plus. C'est la relation entre le médecin et le patient. On fait souvent référence à cet aspect-là, qui serait ou qui est différent en homéopathie que dans la médecine traditionnelle, parce que justement, les principes mêmes de l'homéopathie poussent à s'intéresser à la globalité, vous l'avez cité tout à l'heure, du patient, et non pas peut-être à juste un mal précis qu'il peut ressentir. Donc, une intégration de différents facteurs. Est-ce que ça vous paraît être quelque chose d'important dans
la
démarche ?
C'est fondamental. Alors, c'est tellement fondamental que la plus grande organisation de formation médicale continue, je dis ça pour M. Arié, l'UNAFORMEC, a intégré les médecins homéopathes, et nous avons fait un élément de référentiel homéopathique. Donc, quand on nous donne les moyens, on peut le faire. Et dans ce référentiel homéopathique, on reprenait tout le diagnostic classique. Donc, ça prend déjà un certain temps de faire le diagnostic classique. Et en plus, on posait nos questions, à savoir bien écouter le patient, reprendre ses termes. Parce que quelquefois, la personne nous donne des termes. Et c'est ceux-là qui sont importants pour comprendre un petit peu son mode réactionnel. C'est ça qui prend beaucoup de temps, savoir l'écouter. Ensuite, il faut recenser tous ces termes, les hiérarchiser, les valoriser et ensuite en tirer un ou deux médicaments. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et les patients aiment beaucoup qu'on les écoute, pas simplement parce qu'on les écoute, mais parce qu'on va tirer la modalité. Si j'ai mal, si c'est le mouvement qui m'aggrave ou si c'est le repos qui m'aggrave, c'est totalement différent. Pour l'un, si c'est le mouvement qui m'aggrave, eh ben ça sera Bryonia, donc Bryonia alba. Pour d'autres, ça sera Rustox. Donc, ça sera deux produits différents. Donc, ça, c'est important de le signifier. Est-ce que c'est l'humidité? Est-ce que c'est le froid sec? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, ça, c'est très important. Sans parler du côté modalité réactionnelle psychique, où les comportements sont différents. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de recenser tout ça. Cette écoute, ce questionnaire précis des homéopathes, ça fait aussi notre richesse.
C'est alors, Éliarié, est-ce qu'il n'y a pas là une différence quand même et un apport, un enrichissement finalement de la pratique médicale par l'homéopathie, là, par cette démarche? Souvent, les patients se plaignent d'un manque d'écoute du corps
raison.
Médical.
Là, tout à fait d'accord. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas de débat sur ce qu'on est d'accord. Il n'y a de bonne médecine que de médecine lente. Et c'est vrai pour tout. Pas seulement pour l'homéopathie. Et c'est vrai que tous les médecins devraient prendre le temps d'écouter leurs patients. C'est bien évident.
Il semble que le mouvement soit plutôt inverse aujourd'hui et que du fait de difficultés financières en particulier.
Je crois, oui. Question,
il y a une accélération plutôt.
Du paiement à l'acte, sans doute aussi, doit jouer beaucoup, oui. Le fait que, je ne sais pas, plusieurs homéopathes sont en secteur 2, peut-être c'est ça qui le met, pas tous, hein, ce qui leur permet de constater plus de temps. Mais c'est vrai que l'homéopathie en un quart d'heure, je ne connais pas beaucoup de gens qui en fassent, mais c'est de la mauvaise médecine. Et la médecine générale en un quart d'heure, c'est de la mauvaise médecine. Et la cardiologie en un quart d'heure, c'est de la mauvaise médecine. C'est pas sur ça qu'on sera en désaccord.
On peut regretter peut-être que l'homéopathie n'est pas plus inspiré les médecins traditionnels.
C'est une des qualités, c'est pas la seule. Hein. Je ne sais pas qu'il faut développer les qualités de l'homéopathie, c'est une des qualités de l'homéopathie, cette écoute des bouches, comme l'a dit monsieur, sur un discours, fumiste en fumage, vous avez mal là, donc c'est ceci, il faut faire la relation, quand j'ai mal là, c'est ceci, c'est l'arnica ou cela, que ce ne peut pas être l'inverse, ce ne peut pas être aussi bien, et ça, mais je l'ai dit 40 fois, vous ne l'avez jamais faite, vous ne la faites pas et vous ne la ferez jamais. Alors, ça ne vous intéresse pas de le faire d'ailleurs. Et un dernier mot, Je voudrais quand même, vous avez parlé beaucoup de méta-analyse, je voudrais rappeler celle du Lancet qui est dure pour tout le monde. La méta-analyse, ça consiste à regrouper des tas d'études, les additionner, comme ça il y a beaucoup plus de cas que chacune des études séparément.
Voilà, ce que font, ce que fait l'INSERM sur beaucoup de sujets.
C'est très intéressant parce que ça donne, pour l'homéopathie, c'est intéressant parce que si elle agissait ne serait-ce qu'une fois sur 1000, quand on regroupe 6000 cas, on a plus de chances de mettre en évidence qu'une étude de 50 cas, bien sûr. Et la conclusion est très dure pour tout le monde. Il serait temps, une fois pour toutes, de dire qu'il est inutile de continuer à perdre, je cite de mémoire, de perdre du temps avec des études homéopathiques qui ne montreront jamais rien, comme il serait temps de dire une fois pour toutes que la médecine dite moderne est de plus en plus incapable à répondre aux besoins des malades d'une réponse humanisée. C'est tout à fait vrai.
On fait souvent le procès de l'homéopathie est assez courant et classique, et on fait moins souvent celui de la médecine dite traditionnelle.
Ah oui, mais il y a beaucoup de choses. Et c'est souvent, les gens se réfugient.
Ou classique, et d'ailleurs, peut-être on n'a pas cité ce chiffre, mais quel est le taux de placebo dans les médicaments qui sont vendus comme des médicaments allopathiques?
Ah, mais le taux de placebo, il y a toujours.
L'effet est toujours, mais il y a des médicaments qui sont des placebos parce qu'ils ne contiennent rien.
Monsieur, je dis que ça date de 1974, donc il y a encore des tas de produits qui ont leur autorisation d'avant 1974 et qui sont encore vendus, on les dérembourse petit à petit d'ailleurs. S'ils sont pas nocifs, moi je ne demande pas l'interdiction.
On parle de 30% aujourd'hui.
Oui, il y a les pourcentages de fortifiants qui n'ont jamais fortifié que les labos qui les font, etc. Mais...
Alors une question d'un auditeur, malheureusement on ne peut pas tous les prendre, il y a énormément de questions comme souvent sur ce sujet, mais une qui est très précise, et donc c'est un auditeur de Grenoble qui nous dit « Comment expliquez-vous que l'arnica qui est commercialisée soit à dose homéopathique, soit sous forme non homéopathique, ait le même effet annoncé dans les deux cas, contredisant ainsi le principe de similitude ?» Alain Sarrambeau.
Parce que là, nous avons exactement un produit. Nous avons exactement un produit qui a à la fois le principe de similitude et en même temps le principe classique antalgique. Antalgique. Donc, il peut agir de façon antalgique comme de l'aspirine et il peut agir de façon similaire. Mais on peut prendre un autre médicament pour répondre à votre auditeur. C'est Cocculus indicus qui est très efficace contre les nausées, le mal des transports, et qui, là, ne se retrouve pas dans la situation de l'arnica qui agit à la fois dans les deux secteurs. Je voulais répondre quand même à notre ami sur le Lancet. Bon, on ne va pas entamer la polémique sur le Lancet, mais je voulais simplement dire qu'il y a eu tout un côté médiatique à un moment donné qui a été lancé par le journal Le Monde et Benveniste. Et il y a quand même des travaux qui ont été très bénéfiques, ceux de Bernard Poitevin que connaît M. Arié, et qui ont prouvé qu'on pouvait être efficace avec Apis Mellifica sur un grand nombre de sujets. Et donc, ça a été publié. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses. La troisième chose que je voulais ajouter, moi je ne lance pas la pierre à X ou Y. Je sais que la médecine générale ou la médecine spécialisée, surtout actuellement, c'est ce que j'expliquais à M. Arié, est dans une grande difficulté. On a des difficultés pour trouver des professionnels de santé. Donc je souhaite que les pouvoirs publics comprennent que nous avons, au niveau santé publique, aussi, au niveau de la santé de nos auditeurs, il faut vraiment faire un effort pour que le maximum de gens s'investissent dans les soins. Parce que moi, je suis un soignant, je suis sur le terrain. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est soigner les gens. Alors là, c'est l'homéopathie qui est un petit peu ma fer de lance, mais je pense qu'il y a des tas de thérapeutiques qui peuvent rendre service. L'essentiel, c'est de rendre service à son prochain. C'est pour ça qu'on a prêté serment.
Alors, Élie Arié, on peut effectivement s'interroger sur cette opposition très forte entre ces deux médecines, dont certains d'ailleurs arrivent à concilier parfaitement, puisque des médecins jouent sur les deux tableaux. Alors que vous, par exemple, vous avez une position très anti-homéopathie. Comment expliquer cette tension entre les deux disciplines?
Je l'ai dit au début, parce que la démarche est différente, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a d'un côté la médecine qui sera une science, et de l'autre côté, charlatanerie, etc. Ça serait trop simple, ça serait trop beau, ça serait trop clair. En réalité, Je peux faire un bien développement de quelques minutes. De quel métier descend la médecine ? Elle descend du sorcier du village. Hein, et le sorcier du village était quoi ? C'était pas du tout. Il s'occupait pas de la santé de l'individu malade. À l'époque où l'espérance de vie était de 20 ans, on n'avait rien à foutre. C'était pas j'ai mal au ventre, prenez cette plante, voilà, c'est 23 euros, ça marchait pas comme ça. C'était que la maladie était quelque chose qui était vécu comme perturbant l'harmonie sociale du village et était soignée par des rituels auxquels participait toute la population. Donc c'est basé sur des croyances collectives partagées. Et ça reste toujours vrai en médecine, pas seulement en homéopathie. Et pas, regardez les crises de foie, ça n'existe qu'en France, la crise de foie. Bon, c'est une gastrite, vous le savez bien. Mais les médecins disent que c'est une crise de foie, les gens croient que c'est une crise de foie. On donnait, je ne sais pas qu'on donne maintenant, des extraits de foie. De toute façon, une gastrite, ça passe en 24 heures. Et tout le monde est content, sauf que c'est absurde, mais c'est une croyance collective partagée. Et la médecine fonctionne encore beaucoup comme ça, malheureusement.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture et nous débattons aujourd'hui de la question « Faut-il croire encore à l'homéopathie ?» avec Alain Sarambeau, médecin homéopathe, administrateur du Syndicat National des Médecins Homéopathes Français et vice-président de la Société Française d'Homéopathie, et Élie Harrier, cardiologue chargé de cours d'économie et gestion des services de santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. Élie Harrier est co-auteur avec Jacques Boulet du livre intitulé « Pour ou contre l'homéopathie » qui doit paraître le 11 mai aux éditions Mordicus. Alors une autre question qui fâche et qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est celle du remboursement, qui est un petit peu finalement un condensé de tout ce que nous avons pu aborder aujourd'hui. Un remboursement qui est passé de 65% à 35% en 2003, donc plutôt un remboursement sur une pente descendante. Alain Sarambeau, comment jugez-vous cette situation et son évolution ?
Moi je suis totalement pour le remboursement des médicaments homéopathiques. Et ça coûte vraiment pas grand-chose, d'autant plus que vous l'avez dit, c'est remboursé maintenant à 35%. Sachant qu'un médicament homéopathique unitaire en France coûte entre 1,81€ ou 1,87€, et sachant qu'il y a une franchise sur chaque tube, la Sécurité sociale ne rembourse pas grand-chose à nos patients. C'est déjà pas grand-chose. Donc on souhaite quand même conserver. Alors à l'heure où je vous parle, il semblerait que le ministère de la Santé, comme précédemment, veut garder quand même le remboursement des médicaments homéopathiques aux assurés sociaux. Et c'est une bonne chose, parce que ça nous discréditerait, ça discréditerait la thérapeutique homéopathique. Et c'est une exception française, il faut le reconnaître. Nous avons un acquis social. C'est un peu comme les subventions pour le cinéma. Et nous le défendons. Nous avons eu des syndicalistes comme Force Ouvrière avec M. Bergeron qui a défendu ce point de vue-là. Nous avons eu des gens... tous les ministres de la Santé, tous les présidents, le président Chirac, le président Mitterrand, le président Sarkozy, tout le monde, sa concurrente Madame Royal, tout le monde était favorable à ce que l'homéopathie reste dans la thérapeutique. Donc, moi, je voulais faire cette proposition, parce que le syndicat veut que la place de l'homéopathie soit dans l'économie de la santé publique, ce qui intéresse beaucoup M. Harrier. Il veut que l'enseignement de l'homéopathie soit intégré dans le cursus universitaire des médecins. Il veut que le diplôme universitaire national soit qualifié au niveau européen. Il veut que l'homéopathie soit intégrée dans les structures hospitalières publiques et privées. Il veut l'amélioration du libre choix thérapeutique au titre de l'égalité des citoyens devant les soins médicaux. C'est très important. Il veut la promotion de l'évaluation de l'homéopathie dans le cadre des réglementations françaises et européennes. Et il veut l'affectation des budgets, j'ai terminé, affectation des budgets institutionnels spécifiques pour la recherche en homéopathie. Oui. Merci.
Très bien. Élie Harrier, sur cet aspect des remboursements.
Oui, remboursement. Effectivement, il a tout à fait raison, puisque ça rembourse. Le côté, ça, les médicaments homéopathiques ne coûtent pas cher. Ce qui coûte cher en homéopathie, éventuellement, c'est l'homéopathe, mais pas les médicaments. Non, pas tous, bien sûr. Tous ne sont pas en secteur 2, je sais bien. Mais c'est effectivement. Ce qui compte, c'est la valeur, d'une part, la valeur symbolique, parce que, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que être remboursé, les gens s'imaginent, c'est vrai que le gouvernement prend la responsabilité quand il rembourse quelque chose, de dire on a vérifié ses effets. Mais peu de gens savent que l'homéopathie, il y a un passe-droit, eux, on n'a pas vérifié ses effets.
C'est aussi
là qu'est la vraie escroquerie intellectuelle.
C'est aussi un impact sur les remboursements complémentaires.
Comment ? Oui, bien sûr, les complémentaires. Mais les laissants, il y a une. D'ailleurs, M. Xavier Bertrand avait. proposer un remboursement à 0%. Je ne sais pas si vous soulevez. Si vous souvenez,
il est revenu dessus,
oui, heureusement. Bon, c'était assez extraordinaire. Mais même à 1%, pour parler des complémentaires, c'est obligé de suivre. Mais vous savez, on vient toujours à la même chose. Hein. Personnellement,
quelle est l'avis des institutions dans ce domaine, c'est-à-dire l'Académie de médecine, etc.
Oui, l'Académie de médecine est tout à fait formelle contre le remboursement, vous le savez. Bon, le Conseil de la transparence, qui est l'organisme qui décide, refuse de continuer à dire. Il y a 11 fois qu'on lui a demandé son avis, 11 fois qu'il a dit qu'il fallait plus rembourser. On continue à le demander pour ne pas le suivre. Alors maintenant, il refuse de répondre. Bon, personnellement, je dois dire, je suis partisan d'une sécurité sociale laïque. C'est-à-dire qu'il rembourse ce qui a fait ses preuves et qu'on laisse chacun se payer ce qui ne relève que de ses croyances.
Alain Sarambeau.
Alors là, je mets un porte-en-faux. D'autant plus que j'ai écrit un livre avec le docteur Lefun-Bertsoussan qui s'appelle « Paris homéopathique en banlieue ». Je voudrais insister sur cette expérience. Cette consoeur travaille, elle est passée du reste à la télévision sur France 5. Elle travaille à la Plaine Saint-Denis, avenue du président Wilson.
C'est bien.
Elle a la moitié de sa clientèle en CMU. Bon, le fait d'avoir les médicaments fabriqués et pouvant être distribués, c'est une chance énorme. On raconte cette histoire-là parce que tout le monde a le droit à être soigné, que ça soit ici ou ailleurs. Et le fait que ça soit déremboursé, c'est pour ça que les politiques, les syndicalistes, toutes les personnes, quand on leur monte le débat, ils ont compris qu'il fallait garder, il faut garder la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'aucun député ne partira en guerre pour le déremboursement de l'homéopathie. Et parce qu'ils savent qu'une grande partie de la population est favorable à cette liberté. Et qu'on ne nous la retirera pas.
J'espère qu'ils ne vont pas rembourser la saignée un jour, quand même.
Alors, que faudrait-il faire, de votre point de vue, Eliarié, vis-à-vis de l'homéopathie? Car, finalement, votre position n'est pas celle de la condamnation.
Pas grand-chose. Il ne faudrait pas faire grand-chose. Non, bien sûr. Il faudrait dérembourser les médicaments homéopathiques. Il faudrait que dans les pharmacies, ils soient déplacés du rayon pharmacie et au rayon parapharmacie. Comme ils sont souvent mélangés, ça ne changerait pas grand-chose. Et il faudrait qu'ils puissent être vendus sans ordonnance, ce qui est très souvent le cas. Il faudrait qu'ils soient en vente partout ailleurs aussi. Ailleurs qu'en... partout sauf en pharmacie, en somme. En parapharmacie, oui, mais n'importe où, sur les grandes surfaces, en distributeur, n'importe où. C'est des granulés d'eau sucrée, ça ne peut pas tuer personne.
Alors, Alain Sarambeau nous a parlé des difficultés d'évaluation par les moyens de l'industrie homéopathique, d'une certaine façon. Donc, pourquoi aussi le corps scientifique français ne s'intéresse-t-il pas à ce phénomène? Pendant longtemps, il s'est désintéressé de l'effet placebo, jusqu'à le reconnaître assez récemment et à lancer depuis quelques années. Donc on sent bien qu'il y a une résistance vis-à-vis de ces phénomènes, mais peut-être que l'homéopathie en soi est un sujet de recherche, Eliarié.
Oui, mais enfin, ce n'est pas les recherches qui manquent. Enfin, je ne suis pas inondé de noms et de citations, parce que c'est une façon de... vous savez, l'argument d'autorité, on cite des tas de noms de publications. Aucune publication à ce jour. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, j'aime me répéter. Hein. Le jour où il y a des études qui montreraient que tel médicament homéopathique agit davantage qu'un placebo, il n'irait pas se poser des questions sur la mémoire de l'eau, sur la radicaux. Tous les médecins seraient tenus de l'appliquer, bien sûr. C'est bien évident.
Un message là, que je prends un peu au hasard, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux pour tous les citer. Donc un message de Michael, un auditeur, qui nous dit « Parlerez-vous de la destruction du système immunitaire par la médecine allopathique et de la mutation des virus, au contraire de l'homéopathie qui stimule les défenses immunitaires de l'organisme et permet à l'organisme de s'adapter aux mutations ?» Il y arrive, veut dire un mot.
Oui, tout à fait. Je voudrais répondre là-dessus parce que tout à l'heure,
parce qu'on approche quand même du terme.
Oui, j'ai dit trop longtemps que l'homéopathie n'était pas dangereuse. Là, si, il y a un danger. Parce qu'elle se prétend comme pouvant stimuler les défenses immunitaires. Et là, rien ne défense. Or, il y a des gens. Que des gens, finalement, prennent des granulés qui sentent bien, ça n'a pas d'importance. Mais qu'il y a des gens qu'il faut protéger, comme certaines infections, qu'elles grippent à l'autre, comme les personnes âgées, les gens. Et il y a un produit qui est vendu, présenté comme stimulant la défense immunitaire. Et ces gens se croient présentés et ne le sont pas. Et là, l'homéopathie est dangereuse.
Alain Sarambeau, par substitution.
Moi, je pense qu'il ne faut pas d'abus, il ne faut pas d'extrémisme, il faut être sérieux. Il faut parler avec son patient, lui donner un traitement de terrain. Et ce traitement de terrain permettra de stimuler ses défenses immunitaires. Nous l'avons prouvé avec Madeleine Bastide, professeure d'immunologie et de pharmacologie. Mais peu importe, vous lirez les documents. Je veux dire aussi une chose, c'est, comment dirais-je, on a trop vacciné et maintenant on a compris qu'il fallait personnaliser. Et nous, les homéopathes, finalement, c'est un peu ça notre force. C'est que nous voulons personnaliser le traitement. Une personne qui a besoin d'un vaccin, il faut la vacciner. Mais une personne qui n'a pas besoin du vaccin, il ne faut pas le vacciner. Donc il faut jouer. Et nous avons eu la chance d'inviter, je le dis sincèrement, un détracteur de l'homéopathie et pas favorable à l'homéopathie, le professeur Renner. Je ne sais pas, on arrive à la conclusion peut-être ?
On arrive à la conclusion.
Est-ce qu'il faut conclure ? Ouais. Moi, je vais conclure dans mon sens en disant qu'il faut faire confiance aux médecins homéopathes diplômé, sérieux. Il faut penser que l'homéopathie, c'est quelque chose de totalement évolutif et qui va, ça sera peut-être la médecine du 21e siècle et qu'elle va se marier avec cette médecine moderne que nous aimons. Donc ces deux médecines vont pouvoir lutter contre les grandes pathologies. Et moi, j'ai confiance à la fois dans mes confrères et en confiance dans mes patients.
Il y a une conclusion à cette question. Faut-il encore croire à l'homéopathie?
Oui, j'ai envie à votre titre, justement. Croire, c'est vraiment le bon mot. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi des gens croient? Parce que le mot l'homéopathie est mon hypothèse. Parce que vous savez, la médecine, c'est dangereux. Oui, il n'y a pas de médicaments qui n'ont pas des effets secondaires, certains mortels. Et toute la difficulté de la médecine, c'est de décider est-ce qu'on court le risque de ne rien faire ou est-ce qu'on court le risque du médicament. Bon, et avec l'homéopathie, effectivement, les gens savent qu'il n'y a aucun risque. Ce qu'il y a des sceptiques britanniques qui ont organisé une grande séance d'overdose, ils ont pris en janvier, je ne sais pas quel jour, à 10h33 précise, des quantités astronomiques de granulés homéopathiques, je crois une centaine chacun, évidemment sans le moindre effet. Donc les gens savent que ce n'est pas vraiment des médicaments. Et croire à l'homéopathie, c'est une façon de faire quelque chose, d'agir, sans avoir recours à la médecine. Je crois que c'est ça qui explique le fait qu'on croit à l'homéopathie.
Vous avez droit à un mot, Alain Sarambeau, pour répondre.
J'ai bien entendu ce que disait M. Harrier. Non, nous, on veut totalement s'intégrer dans le système de santé publique. On veut totalement être évalué. On veut totalement travailler avec le Conseil de l'Ordre, l'université et les pouvoirs publics. Merci.
Demandez l'élaboration du passe-droit et ça se fera très vite.
Non. On veut aussi nos laboratoires.
Notre débat d'aujourd'hui s'achève. Merci à Élie Harrier et Alain Sarambeau d'y avoir participé. Je rappelle que sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver comme d'habitude des références de sites internet et d'ouvrages sur l'homéopathie, en particulier celui qui a motivé cette émission, Pour ou contre l'homéopathie, d'Élie Harrier et Jacques Boulet, qui doit paraître le 11 mai aux éditions Mordicus, mais également les ouvrages d'Alain Sarambeau, dont le dernier, 140 ordonnances en homéopathie, a été publié par Masson en 2008. La semaine prochaine, vendredi 30 avril, un sujet très différent dans Sciences Publiques. Dans le cadre de notre partenariat mensuel avec le magazine Science et Avenir, nous nous demanderons comment améliorer la sécurité des cartes bancaires. Le développement du commerce en ligne sur Internet en particulier rend le piratage de ces moyens de paiement de plus en plus courant. Mais les cartes bancaires sont également vulnérables dans la rue ou chez les commerçants. Nous envisagerons les moyens de mieux protéger les données personnelles qu'elles contiennent, à la fois grâce à des techniques et sans doute avec des précautions sur la façon de les utiliser. Avec nos invités, Jean-Philippe Bichard, Pierre Chassigneux, Jean-Louis Lannet et Emmanuel Thomé. Et nous recevrons également Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Science et Avenir, qui consacre le dossier de son numéro de mai à ce sujet. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, a été réalisée par Julie Béressi avec Virginie Cassagne à la technique.